Voilà, d'abord merci de nous avoir collés sur nos chaises et captivés pendant presque 2 heures. Bon, désolé de ne pas avoir pensé à la petite bouteille. On nous avait dit plutôt chablis que bouteille d'eau, donc c'est vrai qu'on ne savait pas, mais bon, c'est bon. Donc voilà, ce que je propose maintenant, bon, il nous reste du temps bien entendu, c'est que vous puissiez répondre aux questions qui se posent. Et je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, même si quand vous concluez en disant que la maternelle a un rôle essentiel, je pense que nous partageons tous, évidemment, cette conclusion. Y a-t-il des questions ?
En fait, c'est plus une remarque qu'une question, c'est-à-dire que je comprends bien la nécessité de vraiment... faire comprendre aux enfants ce qu'on fait, pourquoi ils le font, comment ils le font, etc. Mais c'est vrai que les enfants qui ont un fort décalage avec l'école, en fait, j'ai l'impression, alors je pense qu'il faut que j'apprenne à le faire, mais j'ai l'impression de les perdre encore un peu plus à certains moments que si on leur explique plus basiquement ce qu'il faut faire et dans l'action. Voilà.
Peut-être que vous les perdez, comme vous dites, parce que c'est vrai que c'est de cet ordre-là, hein, je partage cette idée, sur le moment, mais que sur le long terme, on les perd définitivement. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est-à-dire que ça veut dire que ce temps, c'est un temps long, et on ne va pas mener 5 activités dans la matinée. Et ce n'est pas grave. Mais je crois que si on ne prend pas ce... Alors, si on ne prend pas ce temps de rendre lisible, ce n'est pas seulement en explicitant, c'est en les mettant aussi, j'espère que c'était assez clair, dans des situations qui leur permettent de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas seulement par le discours de l'enseignant. Ça se saurait, il suffirait de faire un discours tous les matins et puis toute la question de l'échec scolaire serait réglée. Ça serait drôlement bien, mais c'est pas ça. C'est à la fois, c'est explicité, mais... Pas seulement pour le coup, par le langage, mais aussi par les situations qu'on propose. Mais aussi, par exemple, quand on pose une question qui déstabilise, c'est ça aussi qui fait que ça va accrocher et qu'ils vont se dire que ça les concerne ce qui se passe. Quand je disais, demander à la classe, mais qu'est-ce que vous pensez de la maman du petit chaperon rouge ? Il n'y a pas un enfant qui résiste à cette question-là. Parce qu'ils ont tous peur du loup quand même. Et ils ont raison d'avoir peur du loup, puisqu'il fait son boulot de loup, nous expliquait l'autre enfant. Donc, c'est bien la situation dans laquelle ils vont se trouver qu'il va faire qu'ils vont... être mobilisé intellectuellement parce que titillé par la curiosité, le besoin de comprendre qui est constitutif de tout humain. Je crois que il n'y a pas un humain qui n'a pas envie de comprendre d'où il vient, où il va et ce qu'il fait là. Enfin, c'est l'histoire de l'humanité, ça. Et chacun individuellement porte cette histoire. Alors à 4 ans, elle n'est pas formulée comme telle, évidemment, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Il suffit de les observer dans la vie quotidienne, y compris des enfants qui sont dans un milieu que l'on pourrait estimer nous moins stimulant, mais ça mérite réflexion quand même, hein, parce que je crois que c'est un milieu différent. C'est pas pour autant qu'il n'est pas stimulant. Il peut être stimulant ailleurs sur autre chose. Ils sont tous dans ce désir d'explorer, de comprendre ce qui se passe. Tous. Il y a des choses, des films magnifiques qui ont été faits, en particulier en crèche, où on met des gamins avec des cartons dans une, c'est Crésas qui avait fait ça, je crois, une salle avec des petits et des tout petits de crèche et des cartons, et on voit comment ils s'organisent entre eux pour le transformer en objet qu'on pousse, qu'on tire, dans lequel on se cache, qui s'organisent par un par deux, alors que a priori, ils sont pas socialisés à cet âge-là, entre guillemets socialisés. Ils s'organisent, c'est-à-dire que c'est bien le milieu que l'on va créer qui va produire quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, on explicite, certes, c'est indispensable, mais quand on écrit au tableau, par exemple, sous leur dictée, on fait pas de discours, on est dans l'action, là. On agit, mais on donne à voir une forme d'action qui n'est pas dissociée de la réflexion sur l'action. Voilà. Et quand on pose un problème à résoudre, je ne l'ai pas soulevé comme question, mais si, l'histoire du chaperon rouge, c'est ça, c'est les mettre en situation de résoudre quelque chose qui résiste. plus on propose des situations simples, ou que l'on considère simples, parce que on peut se tromper sur le simple, moins ils accrochent. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Qu'est-ce qui fait que des gamins qui sont à l'écart viennent? C'est parce que à un moment, ça les titille. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. J'avais travaillé, alors je vais le dire comme ça, un peu de manière provocatrice, le théorème d'Archimède en grande section. Alors, j'explique un peu plus parce que dit comme ça, je sens que vous êtes un peu incrédule. On avait travaillé sur ce qui flotte et ce qui coule. Et comment on peut arriver à se dire que des choses flottent ou arriver à faire flotter des objets. Ça a duré 2 ou 3 mois. Hein. Et alors, toutes les. Alors, c'est des consignes du type. Vous devez. Dans un premier temps, c'était autour de. On doit faire l'inventaire des objets qui flottent et des objets qui coulent. Donc il y avait quantité d'objets à leur disposition. Et vous devez faire flotter un certain nombre d'objets. Alors, la pensée magique arrive au grand galop. Et un petit garçon. Alors, ça a duré longtemps. Et un petit garçon, à un moment, dit ça y est, j'ai trouvé. Il avait. Donc je suis arrivée après, près du bac à eau. Tous les objets. Vert était au fond de l'eau et tous les objets d'autres couleurs étaient à la surface. Et il dit ben voilà. Et donc il me dit c'est quand c'est vert que ça coule et rapidement il faut être vert pour couler. Ben oui. Donc il faut être vert pour couler. Ou c'était l'inverse, pour flotter. C'était les verts qui flottaient. Oui, parce que ce que j'ai. Bon. Et je me dis, il faut absolument que je trouve une situation pour je peux lui faire un discours, ça ne marchera pas. Donc je suis allée chercher une petite voiture, vous savez les petites voitures là, vertes, que j'ai mis dans l'eau, et elle a coulé. Et donc il a pleuré de rage. Il avait passé une heure hein, pour faire flotter, couler, pour arriver à la démence. Il a pleuré de rage. Et bon, on était en récréation, il est revenu, et il m'a dit, j'ai réfléchi. Il a sorti la voiture, il m'a dit « C'est parce que les roues sont noires qu'il a coulé. » Bon, voilà. Et donc, il a fallu à nouveau proposer une situation où la question de la couleur a été évacuée. Mais ce sont ces situations-là, et c'était extraordinaire parce qu'il ne lâchait pas. Alors, celui-là et les autres. Alors, il y avait des moments où ils décrochaient de l'activité. Il y a des moments où ils y revenaient, mais ils ne lâchaient pas. Je vais donner une autre situation qui peut être faite très facilement en classe, qui s'appelle la reconstruction de texte. C'est affreusement difficile. Et je l'annonce comme tel aux élèves quand je mène ça dans une classe. Ça se fait avec des adultes aussi. La reconstruction de texte, ça consiste à lire un texte à des élèves, une fois, favoriser un échange entre eux, autour d'eux, qu'est-ce que j'ai compris, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que j'en ai retenu, etc., etc. Faire une deuxième lecture, où on fait le point, pour voir s'il n'y a pas de malentendu sur l'interprétation. Et après, on attend d'eux une réécriture au mot près du texte. Ils doivent retrouver tous les mots du texte. Et on se dit, c'est pas possible. Si ? C'est possible précisément parce que ça résiste. C'est-à-dire que, alors quand je dis ça résiste, il faut que ça résiste et qu'à la fois ça puisse être résolu. Il ne s'agit pas de les mettre dans des situations difficiles, insurmontables, mais de les mettre dans des situations, c'est la fameuse zone proximale de développement de notre ami Vygotsky, c'est les mettre dans une situation où ça résiste, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre comme ça immédiatement tout seul, mais que s'il y a un étayage de l'adulte et une situation, ici le collectif, ils vont pouvoir y parvenir. Et ils y parviennent parce qu'ils sont en groupe et que le groupe y parvient. Mais de toute façon, en tant qu'adulte, on n'y arrive pas non plus tout seul. C'est impossible tout seul. Et quand il y a des classes où, alors qu'ils avaient du mal à la fin à trouver les derniers vers d'un poème parce qu'ils étaient fatigués, c'est fatigant, enfin des gens qui l'ont vécu ici savent que, y compris pour un adulte, c'est une activité fatigante. Quand je dis « je vais vous dire », il y en a un certain nombre qui disent « non, c'est un vrai défi à relever ». Et je crois que ça aussi, ça participe de la mobilisation des élèves dans l'activité. Prendre conscience qu'on arrive à faire des choses complexes parce que les conditions sont réunies et qu'on les a analysées avec l'enseignant, ça permet ce passage-là. Mais sans quoi, ils restent sur le bord du chemin parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils sont au mieux en situation de docilité à l'égard de ce qu'on leur demande. Et ça fait, les élèves dont vous parlez, on les retrouve totalement, de plus en plus passifs dans la classe, en attente de plus en plus de l'enseignant, qui dit, qui fait, qui, etc. Et ils se construisent de moins en moins l'idée qu'ils doivent s'engager individuellement. Mais il y faut du temps, ça c'est vrai. Dire aux parents en quoi l'école maternelle est importante, c'est-à-dire ce qu'elle permet, et aussi qu'on est convaincu que leur enfant est capable d'apprendre à l'école. Je crois que beaucoup de parents sont fort inquiets, alors ils l'expriment ou non, très souvent ils l'expriment en ne venant pas à l'école, sont très inquiets, particulièrement dans les milieux populaires, sont très inquiets de l'avenir de leur enfant, craignent d'être jugés dans leur posture de parent, en disant elle va encore me dire que ça va pas ce que je fais avec mon gamin qui se couche trop tard, qui mange pas bien, que sais-je. Et je crois qu'il faut les rassurer là-dessus, sur le fait que ce qu'ils font ne nous regarde pas, dans le sens où on n'a pas à intervenir sur leur rôle de parent, pas plus qu'ils n'ont à nous dire ce qu'on a à faire puisqu'on est des professionnels. C'est-à-dire que voilà, on cale les choses, chacun est à sa place. En revanche, ce qu'on a en commun, c'est le projet de la réussite de ces enfants qui sont là. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est intéressant aussi de voir avec eux comment ils peuvent apporter leur contribution. Et surtout en les dissuadant de leur faire faire des lignes de rond, des lignes de pont, des lignes de A ou je sais pas quoi à la maison, parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, je pense vraiment pas que c'est pour nous ennuyer qu'ils le font, c'est parce qu'ils ont très très peur que leurs enfants soient relégués dans des filières courtes et se retrouvent dans des impasses scolaires. Donc c'est plutôt leur dire que, par exemple, parler de sa journée à soi, parents, et puis du coup se mettre en échange sur la journée que l'enfant a eue à l'école, ou leur lire un bouquin le soir parce qu'on en prête un, ou leur raconter une histoire s'ils ne savent pas lire, parce que quand moi j'étais à la Goutte d'Or en particulier, il y avait beaucoup de mamans qui ne lisaient pas le français, donc les livres que les élèves ramenaient de l'école, elles ne pouvaient pas les lire. En revanche, elles pouvaient tout à fait les feuilleter avec leur enfant et raconter quelque chose à partir de là. Enfin bref, trouver comme ça tous ces moyens qui signifie la confiance, le respect de l'autre, et qui aussi rend lisible ce qu'on fait. Expliquer que, quand on fait une construction avec des caplas, ce qui apparaît comme un jeu, évidemment, il y a des choses qui s'apprennent. Et lesquelles ? Donc prendre appui sur des exemples très concrets, plutôt que de tenir des discours généraux, prendre appui sur des exemples très concrets du style, ben voilà, cette semaine, on a travaillé la question du langage en faisant ça et ça. On a appris à compter en faisant ça et ça, et en montrant comment on l'a fait, y compris en dévoilant comment ça se passe. Comment ça se passe une séance de maths en moyenne section au mois de septembre, on explique. Soit on fait des photos, soit on explique, soit on montre les traces, etc. Je crois que c'est comme ça qu'on peut peut-être éviter qu'il y ait des malentendus, des tensions, avec les parents qui sont le plus inquiets. Alors après, il y a l'arrivée d'un autre type de parents conquérants et qui, eux, savent ce qu'il faut faire. Je pense que ça masque aussi des inquiétudes, et en tout cas celle de lâcher la chair de leur chair à des inconnus, ce qui quand même est pas évident non plus, hein. après tout, on dit qu'on est enseignant, mais on est qui? C'est qui la personne là derrière? C'est pas tout à fait évident de lâcher son enfant comme ça. Et puis aussi de rappeler le cadre. On est des professionnels reconnus comme tels par une institution. Donc voilà. On n'a rien volé à personne, rien pris. On est estampillé. Voilà. Donc. Peut-être qu'on a à rappeler que c'est un métier, ce qu'on fait, et en quoi c'est un métier. Avec ces gens-là, plus précisément.
Alors, pour rebondir sur la remarque de la collègue, moi aussi une petite remarque concernant la parentalité. De la même façon qu'on ne devient pas élève, voilà, comme ça, que l'instauration de ce statut se fait par une pratique, je pense que on passe aussi de parent d'enfant à parent d'élève. Et que les parents doivent être accompagnés dans cette démarche. Alors, accompagner, mais de façon aussi contenante et bienveillante, et pas forcément les voir comme des intrus qui pourraient rentrer à l'école maternelle et qui pourraient avoir une vision forcément négative sur ce que des professionnels peuvent faire avec leur enfant. Quand vous parliez aussi tout à l'heure de apprendre, c'est se séparer, enfin je ne sais plus exactement quel terme vous aviez utilisé, je ne me souviens plus, enfin il y avait quelque chose autour de la séparation en fait. Alors effectivement, apprendre, ben, on apprend déjà en se séparant, parce qu'il me semble quand même difficile dans une relation fusionnelle enfant-parent de pouvoir accéder à autre chose, mais j'en reviens toujours à la parentalité, qui m'intéresse. Voilà, je pense qu'il faut effectivement accompagner les parents, les aider, dialoguer avec eux, et pas les voir voilà, forcément comme quelque chose... je pense que il faut apprendre aussi ça. C'est pas forcément quelque chose de naturel. Voilà, quand les parents ont leur enfant de 0 à 3 ans avec eux, ici on est en milieu rural, donc il n'y a pas non plus toutes les structures de crèche qu'il peut y avoir en milieu urbain. Il y a ça, mais il n'y a pas non plus toutes les relais passerelles ou enfin ce genre de choses. Non, mais il peut y avoir ça en ville, par exemple. Alors que ici, ça se fait un peu sur Avallon, mais déjà nettement moins dans les campagnes, quoi. Donc voilà, c'était juste pour insister concernant l'apprentissage du devenir aussi parent d'enfant à parent d'élève, qui n'est pas forcément évident. Et qui n'est pas non plus forcément évident, pour rebondir aussi là-dessus, de 3 ans à 4 ans à l'entrée, enfin à l'école maternelle, ou 2 ans si ça se fait, mais de la même façon qu'il n'est pas facile non plus de devenir parent d'élève entre élèves à l'école maternelle et ensuite au CP, au collège et au lycée. Hein. Je pense qu'il y a des étapes dans la scolarité de l'enfant qui sont aussi des étapes pour les parents. Voilà.
Je pense qu'il faut être en relation avec les parents, mais je ne pense pas qu'on ait à leur apprendre à être parents. C'est pas notre métier et ça ne nous regarde pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'on peut faire, c'est ce que je disais à la suite de la première question sur les parents, c'est-à-dire rendre lisible à tous ce qu'est l'école et ce qui y est attendu et comment on peut faire en sorte que d'accompagner leur enfant qui est notre élève dans les apprentissages. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'après, ils sont les parents qu'ils veulent et les parents d'élèves qu'ils veulent. La seule chose qu'on ait en commun, c'est comment accompagner cet enfant qui devient élève sans interférer sur l'espace et l'univers de l'autre. Alors peut-être qu'on veut dire la même chose, je ne sais pas, mais je crois que c'est important. Je suis toujours un peu inquiète quand on a des éducations à la parentalité, etc. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je ne me sens, moi en tout cas, absolument pas autorisée à expliquer à qui que ce soit comment il doit élever son enfant. Je considère que c'est pas mon rôle, c'est pas mon métier, et c'est encore moins mon rôle.
Merci.
Merci. Et c'est important, c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on soit chacun sur son territoire de manière très claire. Alors, en même temps, quand vous dites que il faut éviter ces inquiétudes des deux côtés, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des positionnements parfois où, du point de vue de l'enseignant, le parent est l'ennemi à abattre, et du point de vue du parent, l'enseignant est le méchant qui va sans arrêt dénoncer leurs mauvaises pratiques. Mais je crois que la meilleure garantie d'une relation saine et utile pour l'élève, pour l'enfant et l'élève, c'est bien que chacun soit sur son territoire et agisse en fonction de la place où il se trouve. Et que les rencontres, elles sont des rencontres d'explicitation de ce qu'est l'école, parce que les parents ont le droit, pour le coup, de savoir ce qu'on fait à l'école, non pas d'intervenir sur ce qu'on y fait, mais de comprendre ce qu'on y fait. Je trouve que c'est légitime qu'ils aient envie de le comprendre. Et voilà. Pour moi, c'est ça. Mais peut-être que c'est ce que vous dites aussi. C'est peut-être du même ordre.
Oui. C'est concernant la visibilité, effectivement.
Oui, c'est ça.
Puisque... Non, c'est parce que vous aviez donné comme exemple, voilà, amuse-toi bien, travaille bien et sois sage. Quand le parent pose effectivement, dépose, accompagne son enfant à l'école. Mais je pense que voilà, ça s'apprend. C'est aussi en dialoguant avec les parents, en se disant, mais voilà, à l'école maternelle, effectivement, on ne fait pas que s'amuser. Voilà.
C'est au sujet parce qu'effectivement, ces parents-là ont une représentation particulière de l'école maternelle. Pour certains, ils n'en ont pas vécu. N'ont pas connu, et convaincu qu'en effet, les apprentissages scolaires se font plutôt après, quoi. Donc c'est bien ça qu'on a à donner à voir. Mais je crois qu'on a vraiment à rendre lisible l'importance de ce que l'on fait en maternelle, particulièrement en ce moment.
Alors, juste avant que la collègue pose la question, je vous amène, c'est ce qu'on essaie de véhiculer, enfin, en tout cas, de mon côté, en tant que IEN préélémentaire, qu'en effet, on a à rendre visibles les apprentissages en maternelle, et de manière assez surprenante, les gens qui, et c'est normal, et avec moi, défendent la maternelle pâte et griffe, ne comprennent pas toujours qu'on a besoin de rendre lisibles les apprentissages. Et on se heurte des fois à des enseignants qui nous disent « oui, ça va », alors que finalement, ça serait quand même la base. Donc, merci.
Juste, je voulais ajouter le rôle de l'école, ça va par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est quand même bien de construire un rapport au savoir qui est le plus proche possible de celui que suppose la réussite scolaire. Et là, c'est bien en lien avec les familles ou peut-être même les centres de loisirs et tout ce qui se passe en dehors de l'école que ça peut se construire.
Ben, la réussite scolaire, elle dépend de l'école, puisqu'elle est scolaire. C'est-à-dire que l'échec scolaire est imputable à l'école puisque il est scolaire. Alors quand je dis ça, ce que je veux dire là, c'est que bien entendu, les conditions d'existence des enfants ont des incidences énormes et que statistiquement, ce sont les enfants des classes populaires qui échouent le plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que, c'est ce que je disais au tout départ, ce n'est pas parce qu'ils seraient handicapés de quelque manière que ce soit de par leur origine sociale, mais parce qu'ils ne sont pas dans ce rapport effectivement à l'école qui exige un certain nombre de choses et qui ne sont pas dans le même rapport à la culture que celui qui est requis à l'école. Mais celui qui est requis à l'école, c'est celui des classes dites cultivées, mais c'est aussi celui qui a fait que le monde s'est construit comme il est, c'est-à-dire c'est celui de l'invention, de la recherche, de la production culturelle, etc. C'est-à-dire que c'est un univers où l'école, c'est ce lieu où on se donne pour mission de transmettre à tous ce que l'humanité s'est construit au fil de son histoire pour vaincre les obstacles, pour gagner en pouvoir d'agir et ne plus subir le monde tel qu'il se situe. Et on y va de plus en plus vers là. Alors, bon, on peut en discuter un peu aussi sur ce qu'on produit, mais c'est bien. Et cette réussite scolaire, la réussite scolaire, c'est aussi un moyen d'autre chose. C'est pas une finalité, la réussite scolaire. Mais on sait qu'on est dans une société où la réussite scolaire est fortement déterminante de la réussite dans la vie. Parce que sans diplôme... Alors sans diplôme, d'une part, on n'accède pas quasi à aucun métier maintenant. mais aussi on n'est pas dans un rapport au monde qui permet de ne pas le subir, parce qu'on n'est pas dans un rapport au monde qui permet de le penser. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est vraiment cette idée que l'école, elle a une fonction anthropologique de transmission du patrimoine, elle a une fonction politique de formation du citoyen, quoi. Et on est sur les deux en permanence, et l'école maternelle y compris. Alors c'est vrai que dire que l'école maternelle a une fonction politique et anthropologique, ça peut faire sourire quelquefois, mais je le dis avec beaucoup de sérieux, parce que elle participe dans ce qu'elle donne à voir et à entendre et à construire aux élèves, à les faire entrer dans l'héritage, dans le patrimoine, et c'est le devoir de toute société que de permettre ce passage-là. Et puis aussi, elle permet de produire des enfants qui seront en capacité de penser ou totalement soumis. C'est aussi ça qui se passe. Et ça se construit tout petit. Le rapport à la docilité, à la soumission, ça se construit tout petit. Et je pense que c'est important. Alors, je disais tout à l'heure qu'il fallait copier. Maintenant, je vais dire que je pense que c'est important d'éduquer à l'insolence. Alors, quand je dis éduquer à l'insolence, ça veut dire éduquer à la curiosité, au questionnement et à l'esprit critique. C'est ça la vraie insolence. C'est-à-dire ne pas considérer comme acquis et normal tout ce qui se passe et tout ce qui arrive, mais se dire j'ai envie de comprendre pourquoi c'est comme ça et éventuellement je peux agir dessus. Je crois que c'est vraiment ça les fonctions de l'école et de l'école maternelle aussi. Et c'est là en tout cas que se bâtissent les fondements de ce qui va advenir. C'est pour ça qu'elle est si importante aussi. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous...
Moi, je pense que ce que vous venez de dire, c'est important aussi de comment dire, que les parents se posent cette question-là, parce que finalement, est-ce qu'on n'a pas des parents aussi qui subissent un peu ce qui se passe? Et donner cette réflexion au cours d'une réunion, à savoir à quoi sert l'école, elle sert aussi à former des enfants qui vont réfléchir, qui ne subiront pas la société et son fonctionnement. Je pense que ça, on peut le faire quand même aussi, sans se trouver un peu... outrepasser certaines de nos fonctions. Je pense que ça fait partie quand même aussi de notre...
Vous avez absolument raison, c'est-à-dire qu'on rappelle ce qu'est l'école.
Voilà.
Vous avez raison, et je pense en effet que c'est important de le dire, et vous faites bien d'en parler, parce que je ne l'avais pas signifié, et j'ai pu me rendre compte, moi, dans ma pratique d'instit, de maternelle, que quand c'est posé comme ça, immédiatement, il y a quelque chose qui se met en place d'un échange possible avec ces gens qui sont comme nous des citoyens. Voilà. C'est-à-dire qu'autour d'eux, il y a un projet là. Moi, je suis missionnée pour le mettre en partage avec tous vos enfants, mais il y a un projet qui nous réunit, c'est bien celui-là. Et je crois en effet que c'est important de dire tout ça. Bien sûr.
Alors, je vais aborder une autre question aussi. Est-ce que vous pensez que c'est un peu aussi outrepasser nos fonctions et nos explications vis-à-vis des parents que de, par exemple, parler aussi des enfants qui regardent la télévision le matin avant de venir à l'école, de dire, écoutez, c'est vrai que si l'enfant regarde pendant une demi-heure la télévision avant de venir à l'école, ça va prendre sur son temps d'attention.
Bien sûr qu'il faut le dire. Mais il y a plusieurs manières de le dire. C'est ça la question. Je pense que si vous abordez une maman le matin en disant « Dites donc, là il est vraiment fatigué, ça va pas du tout et il va falloir faire autrement », les échanges vont s'arrêter. En revanche, dire « Je suis un peu inquiète », il s'assoupit le matin, j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué. Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, des choses comme ça ? C'est-à-dire se mettre en position de ne surtout pas accuser, condamner, juger.
Non, je vous assure que c'est pas de la censure, c'est uniquement un problème d'accus.
Merci. Mais plutôt se mettre en position. Parce que c'est quoi notre objectif là ? C'est ça qu'on a à se poser comme question. C'est la même chose que quand on met en place des ateliers. Qu'est-ce qu'on veut ? Il me semble que ce qu'on veut là, c'est que ses parents fassent en sorte que leur enfant soit disponible pour les apprentissages. Donc c'est autour de ça qu'on va réfléchir, et en particulier à la stratégie qu'on va utiliser pour y parvenir. Donc même si on a envie de le dire, parce qu'on le pense très fort, que c'est vraiment pas bien du tout que de mettre son enfant dans la télé le matin, ce que je pense, hein, c'est pas bien du tout, mais c'est bien, comme, qu'est-ce qu'on va leur dire de façon à ce qu'ils se sentent à la, respectés dans ce qu'ils sont, et à la fois du coup puissent s'interroger sur ce qu'ils vont faire. Donc on va effectivement, on va pouvoir nommer la fatigue qu'on constate, ou voilà, il est tombé deux fois dans la cour, je suis étonnée parce qu'il est plutôt dégourdi physiquement. Enfin, autant d'éléments, et en les engageant eux, hein, est-ce que vous avez repéré, c'est-à-dire en engageant quelque chose qui est d'un dialogue pour aboutir. Je crois que c'est ça, quoi. Oui. Et si je faisais référence aux ateliers, je peux pas m'empêcher d'en parler parce que ça c'est irrésistible, l'atelier en maternelle. C'est parce que alors moi j'ai été formée, hein, il faut faire 4 ateliers par semaine. Parce qu'il y a 4 jours, ce qui quand même est un argument pédagogique puissant, vous m'accorderez. Et donc, je constate que les gens qui ont pensé qu'il fallait obéir à la consigne, et puis il faut dire que voilà, on est quand même assez obéissants les enseignants, on a fait ça et on se rend compte qu'on s'arrache les cheveux. Parce qu'on court d'un atelier à l'autre, et on a pu se rendre compte dans l'équipe Escole que c'est quand même pas très productif. Donc là encore, avant que de penser un dispositif, pensons à ce qu'on veut qu'ils apprennent, et après on se posera la question du dispositif. Voilà. Donc avant que de dire à la maman que c'est pas une bonne maman, on va se dire que ce qui serait bien, c'est que cet enfant soit en état d'apprendre.
On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la jonction cruciale entre évidemment la famille, les parents et l'école. Moi, je vois d'un point de vue purement emploi du temps un moment très précis pour cette jonction cruciale, c'est le temps d'accueil du matin. Où vraiment, il y a quelque chose de... Les enseignants me disent souvent, les parents nous considèrent comme une garderie. Et je réponds quelquefois, qu'est-ce qu'on montre au moment du temps d'accueil qui fait qu'ils pourraient changer d'avis sur l'idée que l'école n'est qu'une garderie? Est-ce que vous voulez nous en développer un petit peu autour du temps d'accueil du matin?
Ben, déjà, c'est le temps d'accueil des élèves et pas des parents. Quelquefois, c'est bien... Parce qu'il y a des parents qui pensent que c'est eux qu'on attend le matin, hein. Et des enseignants qui pensent qu'effectivement, voilà. Donc moi, je crois que c'est important du coup d'être effectivement sur le temps d'accueil des enfants, mais ça, on peut l'expliquer aux parents tout à fait. Et en effet, je crois que c'est un temps où on peut, c'est un temps de transition, hein, c'est un temps de passage, et un passage, ça s'organise. Et je crois que c'est bien que des propositions soient faites à ce moment-là d'activité, au sens intellectuel du terme. Pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes et seulement parce que sinon en plus c'est facteur de beaucoup de troubles, c'est facteur d'agitation, et ça ne signifie pas symboliquement qu'il se passe autre chose quand on a passé la porte. Et c'est important que les élèves réalisent que quand ils ont franchi la porte de la classe, c'est pas la même chose quand on est dans le couloir. Il se passe pas la même chose. On est dans un autre lieu où du coup les modes de faire et de se comporter sont pas les mêmes, et c'est très bien, c'est pas grave, mais c'est bien que ça soit marqué symboliquement. Et du coup, ça peut être tout à fait intéressant de mettre en place des activités dès le matin, soit quelque chose qui se continue, qui avait été élaboré la veille, soit quelque chose qui est lancé. Par exemple, avec un certain nombre de jeunes enseignantes qui débutaient, elles mettaient en place le matin, par exemple, ces fameux ateliers de découpage dont je parlais tout à l'heure, où tous les matins, systématiquement, elles prenaient en charge un groupe d'enfants pour apprendre à découper, qui tournait, et c'était un temps où ils étaient vraiment en situation d'apprentissage, elle était avec eux, quoi. Voilà.
Je voudrais parler de la trace écrite. Je voudrais parler de la trace écrite qu'on peut mettre dans un classeur et qu'on donne à l'élève. Bon, l'élève le ramène à la maison, le feuillette avec ses parents, mais aussi ce qui est très important, c'est que quand on lui donne son classeur, il a souvent un petit moment pour regarder lui-même son classeur, le regarder depuis le début, etc. Et par rapport au fait de devenir élève, par rapport à cette réflexion dans ses apprentissages, j'aimerais savoir ce que vous pouviez nous conseiller de faire en trace écrite pour l'accompagner justement dans ce devenir élève.
Vous posez une question qui est importante, qui est la prise de conscience par l'élève de l'avancée dans les apprentissages. Et c'est à ça que sert ce type de trace écrite dont vous parlez. Il y a plusieurs choses possibles qu'on peut faire. Il y a les cahiers de réussite, ce qu'on appelle le cahier de réussite, c'est-à-dire de manière très très régulière, c'est-à-dire tous les jours, mais pas avec les mêmes élèves évidemment, l'enseignant prend un temps pendant lequel l'élève dicte ce qu'il a réussi dans la journée, ce qu'il a appris, ce qu'il a, etc. Et c'est écrit, c'est-à-dire qu'il y a une trace. Alors ça peut être dans un cahier individuel, ça peut être dans un cahier collectif, peu importe. Nous avions mis en place dans l'école, la dernière école maternelle où j'ai travaillé, c'était un cahier d'éducation physique où étaient photocopiées des installations de matériel telles qu'on les avait conçues nous, donc représentées par nous, etc., de façon à ce que... pour qu'on voit la progressivité dans des difficultés, par exemple, de saut, de franchissement d'obstacles, etc. Et aussi les élèves, ponctuellement, au bout d'une séquence de travail sur, sauter, par exemple, étaient invités à dessiner, se représenter maintenant l'activité, ce qui permettait à la fois de mesurer les progrès en dessin, en schématisation et en réussite physique également, quoi. C'est-à-dire... c'est quelque chose qui donne à voir une avancée dans les apprentissages. C'est intéressant aussi d'avoir, et là c'est de l'ordre du collectif, quand on démarre un travail, par exemple, je ne sais pas, j'ai souvenir moi d'une activité où les élèves avaient demandé à une petite fille, revenait des États-Unis où elle était allée en voyage avec ses parents, avait visité une réserve d'Indiens et voulait que l'on, travaille sur les Indiens. Il avait fallu déjà déplacer la formulation, parce que travailler sur les Indiens, ça a des connotations un peu terrifiantes. Bref, et donc, on était parti de « mais qu'est-ce que vous en savez déjà ?» ou « qu'est-ce que vous en croyez ?» enfin, bref, les fameuses représentations. Et j'avais noté par écrit, et on avait gardé ça. Et on avait aussi listé, au bout de 2 jours, une fois qu'ils avaient dit ça, je leur avais demandé de réfléchir à ce qu'ils voulaient savoir, à partir de ce qu'ils pensaient savoir. Et donc on avait fait une liste de questions, qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Alors certaines pouvaient être résolues, d'autres pas. Et au bout d'un temps de travail, de 3 semaines, je ne me rappelle plus, bref, on avait donc produit un certain nombre de choses qui étaient soit, je sais pas, je me souviens, on avait fait par exemple, on avait produit des écrits, on avait produit aussi des dessins, on avait produit des objets puisqu'on avait travaillé, on avait fabriqué une petite poupée indienne, bref, un certain nombre de choses comme ça. Et on avait du coup repris, une fois terminé le tout, repris le premier écrit et mis en relation. Alors ça avait été un travail de plusieurs jours, question par question, mise en relation avec la production finale. Et bien finalement, là on s'était trompé. Une fois qu'on a cherché, exploré, on découvre que ce qu'on croyait, par exemple, évidemment, les Indiens ont des plumes. Voilà. Cette petite fille avait ramené des photos montrant que non. Et qu'ils étaient habillés comme nous. Surprise, ahurissement général, et derrière chaque Indien, il n'y avait pas un cow-boy. Enfin, autant, vous imaginez ce qu'ils peuvent raconter quand ils sont petits. C'est-à-dire l'écrit comme mémoire, également outil pour avancer dans les apprentissages, et trace des découvertes que l'on a faites. Ça, c'est un usage de l'écrit qui est utile parce que c'est de la pensée qui s'élabore, quoi. Et on voit bien le lien entre la pensée qui s'élabore et l'écrit. Donc les cahiers, je vous ai parlé des cahiers. Bah, écoutez, là pour le moment je suis en panne, mais ça répond ou pas à votre question?
Voilà, voilà. C'est pas le micro qui est en panne.
Oui, effectivement, là il y a la trace écrite par rapport à l'élève qui va, ben, qui va reprendre son travail et qui va se voir avancer dans ses apprentissages et dans son travail, dans ses activités. Et est-ce qu'on pourrait pas aussi voir cette trace écrite qui fasse le lien entre l'école et les parents et qui montre vraiment que derrière les activités d'école maternelle, ben, y a une réflexion, qu'on demande aussi une réflexion aux enfants, et comment on pourrait organiser cette trace écrite aussi pour qu'elle soit lue par les parents.
Ça rejoint notre question. C'est très compliqué cette affaire. D'abord parce qu'il y a des parents qui ne lisent pas le français. Donc du coup, voilà, ça devient compliqué. Et moi, je crois que ce n'est envisageable ça que si on a mis en place avant des relations qui vont faire que ils vont s'interroger à ce cahier ou à cet écrit qui débarque à la maison. Parce que ça, c'est pas évident immédiat non plus. Si ça fait pas référence à des pratiques familiales, voilà. Et ça peut mettre l'élève en difficulté, qui lui a un cahier qui revient en mauvais état, ou, vous voyez, c'est un peu, ça peut être problématique. Donc je crois, moi, que ça, ce n'est possible que si, avant, on a mis en place des relations de confiance, d'échange, mais où on se voit, on se parle, on est qui vont favoriser ça. Ça peut être, y a des choses qui sont très très efficaces par rapport aux parents. C'est filmer des moments clés de la classe, d'une matinée de classe par exemple. Alors il y a les conseillers pédagogiques qui n'ont que ça à faire, donc vous les invitez et ils viendront le faire. Je vais sortir par la porte là. Non mais ça peut s'organiser dans une école, c'est ça que je veux dire. Et parce que ça, on avait fait ça à la Goutte d'Or dans une école où les parents n'étaient pas habitués à venir. Hein. Population 100% d'origine immigrée, mais immigrée socialement en difficulté. Parce que l'immigration en soi, ça ne dit pas grand-chose. Et l'enseignante était inquiète que les parents ne viennent pas. Et donc, je dis les conseillers pédagogiques n'ont que ça à faire, parce que je n'avais que ça à faire. Donc, j'étais allé filmer dans cette classe. On avait fait un petit film. Alors, on n'a pas besoin de faire un truc compliqué. C'était pas, il n'y avait pas de montage particulier, des temps, pour donner à voir ce que c'est une matinée de classe. Et donc, la réunion arrive, il y avait trois parents, mais elles ont vu le film. Et elles sont rentrées chez elles. Et le lundi, il y avait plein de mamans qui voulaient absolument voir le film. Du coup, on a refait une réunion de parents, et là, il y en avait 23 sur 25. C'est-à-dire que, parce que là, elle pouvait, elle n'avait pas peur du discours de l'enseignant. Elle n'avait pas peur de ne pas savoir bien parler la langue ou d'être jugée. Elles étaient en situation de, on prenait le risque de montrer ce qu'on faisait, en plus, quand même. Enfin, l'enseignante surtout, moi non, mais l'enseignante, de donner à voir ce qu'elle faisait. Et ces mamans voyaient leur enfant autrement qu'elles le voient chez elles. Et après, des échanges ont pu se mettre en place. Et du coup, après, on peut montrer les objets sur lesquels on travaille et ces fameuses traces écrites qui peuvent faire passage. Mais s'il n'y a pas eu ça avant, je crois que c'est un petit peu... c'est plus difficile. Ce qu'on peut faire aussi... Alors, je ne sais pas. Après, ça dépend des situations locales. Inviter les parents à participer à une matinée avec des contraintes particulières. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas au zoo. Donc on pose des contraintes en termes de temps, en termes de ce qu'ils font dans la classe, c'est-à-dire rien, seulement ils observent, et pas que leur enfant, en leur expliquant avant ce que l'on va, c'est-à-dire en les voyant avant pour dire ce qui va être travaillé. Ça, c'est aussi des moyens, et par rapport à ce que disait la dame au fond tout à l'heure, de rendre lisible ce qui se passe aux parents pour qui l'école maternelle est un drôle d'endroit. Et après, je pense qu'on peut imaginer des échanges écrits, mais si ça ne fait pas partie des références immédiates, on va être affreusement déçus, puis on va leur en vouloir, ça serait dommage.
Il Il est midi moins 6, si ma montre est bonne. Comme j'avais promis qu'on s'approche sans dépasser, est-ce qu'il y a d'autres, une dernière question ? C'est ça. Bon, bah, écoutez, alors je pense que pour le dernier temps, on peut remercier vivement Madame Passerieux de son intervention de ce matin. Je sais qu'elle a, comme vous le disiez tout à l'heure, déclenché des choses et qu'il y a besoin que ça fasse le tour et qu'on y réfléchisse chacun dans nos classes. De toute manière, tout sera reprise lors des animations pédagogiques de circonscription qui seront travaillées par les conseillers pédagogiques qui... autrefois, peut-être, n'avaient pas grand-chose à faire, mais alors vraiment sont débordés de travail maintenant. Donc, c'était le bon temps, comme voilà, je le dis pour eux. Donc, voilà, on va le reprendre avec tous les conseillers pédagogiques de circonscription pour pouvoir préparer un travail avec vous dans toutes les circonscriptions suite à cette animation, à cette conférence, justement. Et puis, j'espère que vous allez faire, comme vous le disiez tout à l'heure, Mme Passerieux, pour les parents qui ont regardé le film, et que vous direz à vos collègues que c'était vraiment très bien et que c'est dommage qu'ils ne soient pas venus. Peut-être qu'on sera obligé de vous faire revenir avec 600 personnes dans la salle cette fois-ci, mais bon, l'auditoire était de qualité, c'est le principal. Bon retour à tous dans vos circonscriptions. Je n'oublie rien. Non, je crois avoir tout dit. Est-ce que tout le monde a signé la petite fiche d'émargement ? Juste pour ça, je dis bien, c'est pas pour compter, mais... D'accord. Allez, bon retour à tous, et merci Mme Passerieux, et merci à l'équipe d'Avalon de nous avoir accueillis.